Je n'arrive plus à rien. Je suis fatigué. Et, tiens-toi bien, ça y est, j'ai reçu des menaces. À l'hôpital et chez moi. À l'hôpital, un savon avec une toilette, tu sais ce que ça veut dire? Et chez moi, une enveloppe en craft avec un cercueil dedans et remarqué ta vigilance ou je sais pas quoi, je l'ai brûlé le truc. Jamais, c'est la première fois. Ça me fait peur. Je te le dis, j'ai peur. J'ai jamais connu ce sentiment. Je sais plus.
Tu vois dans quel monde on vit, mon frère?
Comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à un monde où on menace un médecin? Il y a des stéthoscopes, il y a des médicaments là-dedans. Il n'y a pas une bombe. Tu sais, plus je vois des gars arriver complètement explosés, il leur manque le rein, la tête, je vois des choses, moi. Je vois des choses. C'est ça notre pays. C'est devenu ça.
Ouais.
Un frère qui enlève la tête à l'autre. C'est moi qui dois soigner ça.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Continuer.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
As my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules.
Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 37. Back in the jungle of the radio. Notre longue et merveilleuse, somptueuse, délicate et raffinée pause musicale est terminée. EAGO est de retour pour parler cinéma, audiovisuel et images animées dans le mouvement du flux. La France éternelle a vaincu le mal et la mort, la culture va reprendre et nous enchanter de sa médiocrité. En attendant, Godard se devait d'être là pour pourfendre son ignominieuse crapulerie. Action, critique, direct. Here we go again, kids and motherfuckers. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc nous sommes de retour à l'antenne après une longue pause musicale et merveilleuse. Mais donc nous allons pouvoir reparler de cinéma et d'autres conneries donc, qui bougent sur un écran. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest de retour. Il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut.
Salut Thomas, salut à tous et heureux de reparler devant, derrière un micro.
Et il y a bien évidemment avec nous le docteur Erwan. Bonsoir docteur.
Bonsoir tout le monde.
Carla n'est pas des nôtres car donc la limite des 100 km pour le moment encore en vigueur la bloque dans le merveilleux sud de la France, dans un genre de no man's land où on ne croise personne mais où il y a des gorges, des vallées merveilleuses, on peut
et
faire
des gâteaux. De
et beaucoup de gâteaux. Mais donc Carla devrait revenir parmi nous dans pas longtemps à la mise en son de cette émission et il nous accueille chez lui dans sa cuisine. Il y a Gal. Bonsoir Gal.
Bonsoir.
Merci mon cher de nous accueillir. Car donc, comme de vulgaires podcasteurs, nous enregistrons à la maison avec des fils dans tous les sens et chez les gens. Mais nous désespérons pas de pouvoir revenir un jour en plateau quand même, si les conditions sanitaires évidemment le permettent, hein, comme on dit dans le milieu. Mais donc pour l'instant, c'est vrai que nous sommes chez Gal, nous sommes quand même très heureux d'avoir pu récupérer du matériel pour reprendre le cours normal de nos opérations. Parce que donc nous avons passé les deux derniers mois à faire des sélections musicales de qualité qui, j'espère, chers auditeurs et auditrices, vous ont ravi les oreilles et les sens. Donc mêlez comme ça musique et cinéma dans un gloobie-boulga très formel finalement et très réfléchi, mais moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter. Et vous, messieurs, autour de cette table, comment se sont passés ces deux mois de confinement et de cinéphilie, Thibaut ?
Oh ben moi, tu sais, avec bébé Zach, même mater un film de 1h15, ça me prend 4 jours. Donc finalement, je me suis plutôt concentré sur des courts-métrages et je crois que je n'ai pas dépassé le visionnage d'un film de plus de... Je crois que le film le plus récent date de 1950. Donc voilà, la magie du muet fait que souvent, les films sont courts.
Et ce qui permet de regarder
Simon approuve.
Oui, voilà, Simon le jeune approuve. Et c'est vrai qu'en plus, les films muets, ça permet de ne pas réveiller bébé.
Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, bien entendu, après, je ne me suis pas tapé du à Belgance parce que sinon, là, j'y serai encore.
Vous, mon cher docteur, un confinement plutôt relativement studieux.
Oui, studieux, fructueux aussi, voilà, avec beaucoup de pas mal de films, j'imagine, comme vous, et puis du bon et puis du moins bon, quoi, voilà, des petites redécouvertes et puis des grosses panouilles, voilà. Donc
c'est vrai qu'au moins le confinement nous aurait permis de essayer de rattraper le retard que nous avions sur le visionnage de nos disques durs, mais aussi de les remplir, par contre, d'une manière incroyable. J'ai jamais autant chopé de films en 2 mois. C'était incroyable, dû notamment à quelques groupes Facebook de partage de films ou bien ce genre de choses où il y avait quelques splendeurs et au bout d'un moment on se dit que ce n'est plus possible quand des gens vous sortent l'intégrale de William Wellman. On se dit que non, définitivement, il faut peut-être lâcher un petit peu la bride parce que là, oui, ça peut être possible.
Pareil, moi j'ai découvert, j'ai un peu exploré la base de données de libertaire.net en docu et en fiction. Il y a un chier de trucs, j'ai vu, pareil, j'ai vu pas mal de trucs politiques, j'en ai téléchargé pas mal aussi. Et pas mal de docu américains sur le syndicalisme et tout ça. Enfin, vraiment, c'est très très riche, il y a vraiment à boire et à manger, mais il y a plein de bons trucs.
Mmh. Ouais, moi aussi, j'ai pu rattraper plein de trucs, notamment du coup, j'avais le temps de regarder le document de Ken Burns sur la country.
Alors moi j'ai regardé celui sur l'Ouest.
Ah ouais,
ouais, qui est produit par Ken Burns, qui est pas fait par lui, mais qui est vachement bien. Et Ken Burns, c'est c'est un mec que j'avais découvert moi quand il avait fait ses documentaires sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'était passé sur Arte il y a une dizaine d'années.
Qui sont encore sur le site d'Arte,
voilà,
d'ailleurs.
C'était passé il y a une dizaine d'années de ça. Et en fait, il en a fait plein sur quasiment tous les conflits.
Sur le Vietnam, il y a un an.
Il y en a un sur New York, qu'il faut que je regarde aussi, qui a l'air très bien, sur la ville de New York.
Ah ouais. Et en général, Ken Burns fait de très longs documentaires, souvent qui font 15-16 heures, mais qui sont toujours passionnants, hyper documentés, très précis. Et c'est vrai que sur l'histoire de la country, là, c'est quand même assez merveilleux. Moi, j'ai découvert et redécouvert beaucoup d'artistes et plein de choses, à quel point c'est quand même... Même si c'est devenu vraiment de la grosse soupe, souvent bien dégueulasse, faite par des mecs avec des chapeaux dégueulasses qui n'ont pas de cou, mais quand même, pendant 50 ans, ça a été un vivier incroyable de culture.
Non, non, c'est... Oui, d'ailleurs, si vous voulez voir le documentaire donc sur la country, au lieu de le voir et de vous taper 15, 16 ou 18 heures, Thomas a fait un live tweet de tous les épisodes. Donc, du coup, en 260 signes, vous pouvez voir un résumé de tous les épisodes.
Peu de choses près, mais...
Épisode 1, c'est bien. Épisode 2, oh, c'est
vachement
bien.
Un peu dans le détail, mais...
Tout ça pour terminer, pour dire que Johnny Cash, c'est vachement bien.
Oui, et que comme...
Pas besoin de 16 heures pour le savoir.
Ce fil Twitter avait été fait principalement parce que j'avais bu beaucoup trop de whisky le soir du premier épisode et que je me suis un peu enflammé.
Hi-ha.
C'est ça, exactement. Bah, le whisky sour et puis la country, en général, ça fait un bon mélange. Hein,
ça donne envie de danser le quadrille. Quoi.
Exactement. Ouais. Donc voilà, de toute façon, là, on attend. Le 22 juin, normalement, les salles de cinéma vont réouvrir. Donc il y aura peut-être des choses qui vont sortir, mais la majorité des films ont été repoussés, en tout cas, soit 2021, soit à l'automne, pour les plus près, notamment les grosses prods américaines, genre les 007, les Fast and Furious, les machins comme ça, qui ont été repoussés. Donc c'est vrai que...
Oui, Wonder Woman.
Oui, ouais, ça repousse un peu le calendrier.
En même temps, on s'en fout. Globalement, on s'en fout.
Mais même de manière générale, pour les autres films, on va voir un petit peu à la rentrée quelles sauces on va être manger, parce que, à mon avis, l'été va être quand même un peu mou. De manière générale, c'est un peu mou. Mais là, ça va être encore plus particulier. Quoi. Donc, 22 juin, ça va rouvrir. Peut-être que ça va refermer 3 semaines après, mais...
On n'aurait pas de la foule de toute façon, parce qu'il n'y aura pas de fête du cinéma, de toute façon, non. Je suppose. Oui, donc, voilà. Et les sorties ne vont pas être ouf, quoi. Donc on devrait être assez tranquille dans les cinémas. À mon avis, une place sur deux, ça devrait pouvoir se faire, je pense.
En plus, le grand drame pour les amateurs comme nous de cinéma de qualité, hein, il y a notamment au début du confinement le film de Michael Youn en tant que réalisateur, le nouveau film de Michael Youn qui devait sortir, et donc malheureusement, il est repoussé en grec. C'est terrible. Ouais, une année terrible.
Une année terrible, 2020, Anus Horribilis.
Ah ouais, ça va être. On en reparlera dans 20 ans. Hein.
Oui, on en rira.
Ah oui, on parlera du confinement comme l'époque des jours heureux.
Voilà, c'est
où
ça.
Nous pouvions être chez nous en slip à regarder plein de films.
Quand on sera en mode Mad Max.
Exactement. Et oui, non, finalement, l'apocalypse ne ressemblera pas à Mad Max, juste à des mecs qui ne se rasent plus en slip chez eux. Quoi.
C'est un bon début.
C'est moins romantique.
C'est un peu moins romantique. C'est beau l'apocalypse. Mais donc, bref, je n'ai pas encore annoncé, mais nous avons quand même traité de quelques films. Nous allons commencer par parler de Terminal Sud, le dernier long métrage de Rabah Ammerzheimer, qui était sorti à l'automne en salle en France, mais bien évidemment reconnu pas à Rennes, malheureusement, mais que donc qui est sorti en DVD, vidéo et sur toutes les plateformes possibles, imaginables, où vous savez, les types yakés. Donc, je trouve que c'est un très beau film, donc nous allons en reparler tout à l'heure. Et une sortie en DVD Blu-ray chez Sidonis Kalista de Le Bagarreur, aka Hard Times, le premier long métrage de Walter Hill en 1975 avec James Coburn et Charles Bronson. Mais avant de parler de ce jeu programme, donc nous allons faire une petite pause musicale qui va nous emmener donc dans le sud.
Il était une fois dans le sud, un nommé Paul Calatayude. La pendule sonnait midi, quand sa mère lui donna la vie. Le soleil qui brûlait la terre devait marquer sa vie entière, alors que son souhait le plus cher, c'était d'aller au sport d'hiver.
C'était d'aller au sport d'hiver. Paul Calatayud, toi, la terreur du sud.
Aujourd'hui encore dans le sud, on parle de Calatayud. On dit qu'il a tout essayé, de l'opium au lait concentré.
De l'opium au lait concentré.
Mais en vain, car dans le ciel bleu, le soleil brillait toujours mieux. On l'a trouvé un soir d'hiver, mort, assis dans son frigidaire.
Assis dans son frigidaire.
Si comme Paul Calatayud, vous cherchez l'hiver dans le sud, vous devriez vous dire sans cesse qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse.
Pourvu qu'on ait l'ivresse.
Paul Calatayud, toi la terreur.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Les Charlots avec Il était une fois dans le sud, hein, car on reprend nos bonnes vieilles habitudes musicales de vous faire découvrir les bas-fonds de la musique française. Donc avec Les Charlots. Et car donc du sud, il va en être question bien évidemment dans Terminal Sud, donc de Rabah Ammerzheimer, son nouveau long métrage en tant que metteur en scène, donc sorti à l'automne dernier, 4 ans après Histoire de Judas, donc qui est un film historique et en costume, comme son film précédent d'ailleurs en 2011, qui était Les Chants de Mandrin, alors que là, il revient à un cinéma plus contemporain, avec des problématiques pour le coup, on va dire, vraiment actuelles, comme on dirait sur France Culture. Et donc, qui se passe dans un pays que l'on soupçonne être un pays du Maghreb, en tout cas avec beaucoup d'Arabes dedans. Puisque donc, il y a un médecin interprété par Ramzi Bedia, qui avait déjà joué dans les premiers films de Rabah Amarzaimush, notamment Blend No. 1. Où donc là, il joue un médecin qui s'occupe un petit peu de tout le monde. Évidemment, c'est la merde. Il y a quelques attentats. Il y a des flics qui sont pas super cool, super cool. Et donc, lui, il va un peu... on veut dire dériver là-dedans en essayant de survivre entre les terroristes qui font appel à lui pour soigner leur chef qui a été blessé et évidemment la police qui est pas très très content de le voir a priori fricoter avec des gens pas très fréquentables. Et donc c'est une intrigue ou une histoire assez ténue mais dans lequel je trouve que Zaymush dévoile et déverse une fois de plus sa hargne et sa rage politique. Parce que le film est très violent, à la fois en termes graphiques, sur une scène de torture notamment, et en termes de discours, on voit le personnage de Ramzi Bedia qui est totalement désespéré et en prise avec à la fois la violence d'État et en réaction la violence des rebelles, on va dire. Donc, cher docteur, ici autour de cette table aussi, vous avez vu le film de Zaymush. Je ne sais pas si tu connais bien le cinéma
non,
de
Non, pas très bien. Non. J'ai vu ses premiers films, mais je n'ai pas vu Les Wesh Wesh,
qu'est-ce qui se passe, voilà. Blend No. 1, et puis Dernier Maquis.
Je me souviens de l'avoir croisé, mais alors il y a près de 20 ans de ça, au Festival des Minorités de Dornenay. C'est là que j'avais vu justement Wesh Wesh. Et je me souviens qu'il était venu, alors il était tout jeune à l'époque, hein, et il était venu causer de son film, voilà, c'était, je me souviens, assez intéressant. Moi, sur Terminal Sud, c'est vraiment regrettable que le film n'ait pas été diffusé dans les salles à Rennes, parce que c'est déjà d'une part, je trouve que c'est un assez beau film, une très belle photo, avec beaucoup de travail sur la sous-exposition des lumières, enfin beaucoup de clair-obscur, beaucoup de... Voilà, c'est près des corps et tout, enfin je trouve qu'il y a vraiment une qualité esthétique voilà, tout à fait certaine. Alors après, c'est vrai que moi, j'avoue que le parti pris du film m'a un peu surpris au départ, c'est-à-dire que je me suis demandé en fait pendant le film, mais je connais pas bien l'histoire du scénario, je me suis demandé pendant le film si il n'avait pas prévu au départ de faire un film en costume, c'est-à-dire un film qui parce que ça ressemble à un film qui pourrait se passer en Algérie pendant la guerre, toute l'histoire et tout, enfin voilà, c'est en plus je trouve que le film va un peu sur les traces de l'aveu de Costa Gavras avec, ouais. Sur cette idée de ce que la dictature fait au corps. Et à l'esprit. Comment est-ce que sur une personne individuelle, comment est-ce que c'est pas tellement les événements politiques qui intéressent le film, mais c'est plutôt comment est-ce que le climat en fait de dictature va peser sur la psychologie d'un personnage et finir par peser finalement sur son physique.
Mais je pense effectivement qu'il aurait peut-être préféré faire un film plus historique, on va dire, parce que ses deux derniers longs métrages étaient comme ça. Mais en termes de production, lui, il travaille toujours dans des très petits budgets, c'est exactement. Souvent des trucs qui sont enfin c'est jamais produit par des grandes firmes, c'est toujours la thune ramassée un petit peu à droite à gauche parce qu'il tient farouchement à son indépendance, à sa liberté de faire. C'est vraiment un mec qui en termes de fabrication du cinéma est très militant et très investi, sent, hein. Et il a toujours refusé d'aller dans des grands systèmes alors qu'il pourrait avoir plus de thunes justement pour aller faire.
Alors, moi je trouve ça intéressant justement parce que je sais pas si c'est une nécessité ou un choix dès le départ, mais dans les deux cas je trouve que ça donne quelque chose d'assez intéressant puisque ça donne l'impression à la fois de voir un film sur l'histoire, la scène de torture qui est un peu centrale dans la deuxième partie du film. Pour moi, elle renvoie directement à la guerre d'Algérie, d'autant plus que le tortionnaire est joué par un acteur blanc. Et en même temps, ça donne l'impression de voir un film très contemporain, justement, sur, mais peut-être pas sur des pays... alors, ça ressemble un peu à l'Algérie. Moi, ça m'a fait penser à l'Égypte.
Oui, voilà. C'est,
à l'Égypte, c'est, l'Égypte du maréchal Sissi, c'est une espèce de dictature militaire.
C'est un avec, pays arabe, mais voilà, qui n'est pas nommé.
Et alors, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé doublement intéressant, en fait, c'est qu'en fait, tout est filmé. Il n'y a rien qui est filmé au Maghreb. Tout est filmé en France, tout est filmé dans le sud de la France. Ce qui fait que le casting.
Camargue,
alors, j'ai trouvé que c'est sans doute un des aspects les plus intéressants du film, c'est que le casting est indifféremment blanc. En fait, ouais, je ne sais pas comment dire ça. Blanc et maghrébin, quoi. Voilà, on va dire, entre guillemets. Ce qui fait qu'il y a des personnages. Par exemple du côté des militaires qui sont interprétés par des acteurs d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, et il y en a d'autres qui sont interprétés par des acteurs franco-français, on va dire. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça débarrasse aussi le film d'une espèce de côté binaire entre d'un côté des pauvres victimes, enfin un peuple arabe qui serait une pauvre victime et puis un peuple blanc qui serait oppresseur. Là, en fait, tout est mélangé. Et donc, du coup, finalement, le film parle du Maghreb, mais du coup, en fait, par contre-coup, cette espèce de choix de casting fait que finalement, ça parle aussi de la France. Et que finalement, le fait que ça se passe en France, ça donne une espèce de décalage assez curieux. où on se dit, mais ouais, mais en fait, ça pourrait fonctionner comme ça ici. Oui. Et ça ne devient pas si. C'est-à-dire que ces cette imagerie, qu'on a qui est une imagerie qu'on associe au Maghreb, et qu'on associe au pays du Moyen-Orient, devient une imagerie qui est transposable dans un pays comme la France, où il y a des paysages qui ressemblent, etc. Il y a une espèce de. Voilà,
d'influence culturelle.
Voilà, ouais, et puis de jeu sur la représentation du territoire, du pays. Enfin, c'est, je trouve, et du coup, alors, c'est à la fois un peu elliptique, et en même temps, je trouve ça assez intéressant parce que ça fiche pas complètement le discours dans un contexte ou dans une, on va dire, dans une opposition clairement définie.
Oui, justement, c'est pour ça que je trouve que le film a aussi une telle force de discours, parce que justement, ça entretient un flou sur la géographie du lieu, sur le pays. Ça va pas aller, on va dire. Prendre à partie tel ou tel pays ou tel régime, c'est finalement une violence d'État qui peut s'exercer dans n'importe quelle démocratie occidentale ou n'importe quel pays d'Afrique, d'Europe de l'Est, même d'Amérique, où finalement le lieu importe peu, ce sont juste des méthodes qu'on retrouve à peu près partout. Gal.
Pour corroborer ce que vous dites, c'est que en fait c'est une réalité historique aussi. C'est en fait généralement les techniques de maintien de l'ordre sont souvent expérimentées dans les pays africains et nord-africains pour ensuite être importées en France ou dans d'autres pays occidentaux.
De toute façon, de manière générale, les pays des anciennes colonies, que ce soit en Asie ou bien en Afrique, en général, c'est plutôt le terrain de jeu justement pour expérimenter toutes les méthodes de répression, de maintien de l'ordre et de contrôle de la population, et qu'après, on ramène au pays, on va dire.
Ouais. Et l'avantage aussi d'avoir mixé comme ça son casting, c'est aussi le fait de ne pas avoir un pays défini comme ça. Ça aurait pu tendre vers une vision presque de l'orientalisme un peu fantasmée, alors que là, justement, en mêlant les gens, on évite de tomber là-dedans, ce qui aurait pu être problématique en soi, mais là, ça l'est pas, quoi.
Ouais, puis d'une vision un peu misérabiliste, d'un espèce de peuple maghrébin qui serait toujours... comment dire, qui seraient jamais maîtres de leur destin d'une quelconque façon, qui seraient toujours d'éternels oppressés,
des victimes perpétuelles.
Voilà, faute d'éducation et tout. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas en plus du personnage principal, puisque lui est médecin. Mm. Donc, en plus, il fait partie de la catégorie, on va dire, la plus, peut-être pas aisée au niveau final, au niveau social, mais de la partie la plus éduquée de la population.
La casse bien vue, voilà. En plus, a priori.
Sauf que le film traite aussi de ça, et c'est en ça, à mon avis, que le film se rapproche aussi, de manière peut-être moins directe de Costa Gavras, c'est qu'il y a cette idée sur l'engagement. Parce qu'en fait, ce que nous montre le film, c'est un personnage qui pense que sa neutralité de médecin équivaut à une neutralité politique.
Ouais, c'est ça.
Et qui va
parce
avoir.
Parce qu'il veut pas s'engager, voilà, a priori. Il veut pas être pour l'armée.
Pour lui, il soigne les gens. Voilà, ouais. Il soigne des gens. Sauf que, et ça, je trouve que même si je trouve que c'est peut-être amené de manière un peu brutale à la fin du film, je trouve que sa trajectoire d'homme qui sauve à homme qui tue montre bien justement qu'il se retrouve dans cette situation-là, faute d'avoir clairement choisi son camp plus tôt, en fait. C'est ça, le truc. Ouais. Et au fait, il est obligé, la situation l'oblige, en fait.
Que de toute façon, dans des situations, on va dire, plus ou moins extrêmes, peu importe le pays, la neutralité ne paye pas, de manière générale. De toute façon, l'histoire a fait ses preuves là-dessus, mais...
Surtout quand tu es considéré comme coupable
peu importe
d'entrée de jeu, voilà, pour coupable d'entrée de jeu, c'est-à-dire que ça va forcément se... Voilà, on sent bien que ça va forcément se retourner contre lui, quoi. Et que les petites vexations qu'il accepte en fait lors des contrôles de police, voilà, que ces vexations vont forcément devenir cette humiliation qui est une espèce d'humiliation diffuse qui lui permet d'accepter sa situation. Quand ça devient la scène des routes d'interrogatoire, là, l'humiliation se transforme en violence directe. Et là, il peut plus tourner le visage, il peut plus dire bon bah voilà, c'est comme ça, on fait avec. J'ai peur, etc., etc. Là, il se retrouve confronté dans sa chair à un choix à faire en fait, tout simplement, quoi.
Et en plus, ça passe vraiment à la fois par la mise en scène de Zaïmos qui est très très sèche, qui est très peu découpée, parce que c'est quand même souvent comme ça comment il bosse. Et en plus, il fait souvent une large part à l'improvisation,
ouais,
au tournage.
Assez docu aussi, ouais, à certains moments. Hein.
C'est très docu, puis il y a beaucoup d'impro, notamment avec ses acteurs, où on sait qu'il aime bien les scènes très longues, les plans très très étendus, justement, pour qu'après, il fasse plusieurs choses dedans. Et lui, en général, il aime bien venir perturber le jeu des acteurs, à un moment, quand ils sont hyper concentrés, quand ils font un truc. Quand lui, par exemple, joue dans ses films, notamment dans Les Chants Mandrins, il y avait ça, il rentre dans le plan pour aller bousculer le personnage et lui faire avoir une réaction. Il aime beaucoup jouer sur la brutalité de la réaction de ses acteurs. Donc je pense pour ça, par exemple, que ce soit dans des scènes de médecine où il soigne le chef rebelle, ou bien dans la scène de torture, on sent justement que perso de Bédia et Bédia lui-même, il est poussé dans des retranchements, puis dans des réactions très très vives. et très épileptique justement, et ce qui du coup fonctionne hyper bien.
C'est une torture aussi qui est faite en plan séquence, plus, donc qui est quand même assez assez éprouvante à regarder. Et puis en plus, par contre, ça veut pas dire c'est vrai que le style est assez sec, mais en même temps, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de moi je trouve qu'il y a une certaine forme de d'élégance quand même, et notamment je trouve qu'il y a des scènes qui sont assez touchantes, la scène de la veillée funéraire par exemple, et puis même cette scène où il creuse la tombe à plusieurs en fait, et il se relaie, toute la famille se relaie, donne quelques pelletées, s'arrête, reprend, enfin voilà, il y a toute une espèce de solidarité familiale en fait qui se voit à travers l'action
dans l'épuisement.
Ouais, il y a pas mal de scènes comme ça qui justement, c'est parce que c'est un film assez peu causant. Ce qui est plutôt bien aussi, moi je trouve, parce que ça laisse de la place à faire passer des choses par la mise en scène, et je trouve qu'il y a des trucs d'éclairage, des scènes dans l'intérieur, enfin il y a vraiment la scène d'opération justement, enfin il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des scènes assez intéressantes, assez intenses quoi, finalement, sans être à la Kechiche quoi, c'est-à-dire dans une espèce de plus quoi,
de pathos, ou bien d'excès,
voilà, ou de d'hystérisation, ça reste, c'est pas du tout un film hystéro quoi, c'est par contre c'est un film qui est tendu quoi.
Ouais, c'est très tendu, c'est vraiment très très noir effectivement, même quand il y a pas forcément de scène violente, on sent une violence qui est perpétuellement là, que ce soit par un attentat qui pourrait arriver à n'importe quel moment, ou par l'oppression des flics, de par les contrôles policiers, une présence constante dans la rue, où il y a vraiment un sentiment d'oppression qui est, je trouve, hyper bien rendu, avec pourtant une économie de moyens qui est incroyable, parce qu'il y a un sound design qui fonctionne hyper bien, où il n'y a pas de musique d'écran.
Quasiment pas.
Il n'y a pas de musique d'écran. Mais en général, ce n'est pas un truc qu'il affectionne beaucoup. Lui, il veut que de la musique, enfin, il n'y a pas de musique de fausse, il veut que de la musique d'écran, et ce qui en plus dans son cinéma fonctionne hyper bien, parce que ça participe à la fois à son côté documentaire, à son côté crédible, réel, mais dans lequel il y a quand même des éléments de fiction qui sont constamment intégrés, ingérés. Ce qu'il recherche, je pense, c'est les accidents du réel, comme on dit, et au fur et à mesure de son cinéma, je trouve qu'il les maîtrise de plus en plus. Dans ses films en costume, notamment dans Histoire de Judas, je trouvais que ça fonctionnait un peu moins bien. J'ai l'impression qu'il avait une trop grande conscience, en fait, de son talent, et une certaine prétention par moment, ce qui faisait, je le trouvais, desservait un petit peu son propos et puis sa mise en scène, alors que là, il revient à une âpreté et puis un style sec qui pour moi était dans son meilleur film, qui est Le Dernier Maquis, qui pour le coup est un vrai film de marxiste vénère pur jus, et là il revient vraiment à un truc comme ça, en faisant quand même quelque chose d'un peu différent sur des problématiques qui sont pas les mêmes, c'est, on dirait, moins sur des problématiques de travailleurs ou bien de société, mais plus sur un propos politique de manière générale qui est extrêmement fort.
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le corps, quoi. C'est le corps de son héros. C'est
Ramzi qui est
impeccable. Voilà, qui est impeccable. Et c'est comment est-ce que. Voilà, qu'est-ce que. Et c'est d'essayer de nous faire sentir. Et c'est vrai que je n'ai pas si souvent que ça vu ça dans un film. C'est d'essayer de nous faire sentir ce que c'est que l'oppression. Mais pas au niveau politique ou au niveau des structures, mais au niveau.
Oui, c'est pas du Pontécorvo.
Au niveau de la vie quotidienne. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde où une sirène de police, c'est une menace.
C'est intéressant ce que vous dites sur le corps, par exemple, le traitement du corps, par exemple, de Ramzi Bedia, parce que sachant que Ramzi Bedia a toujours travaillé son jeu par rapport à son corps, je me souviens de Jean-Baptiste, quand on avait chroniqué la tour de contrôle.
Tour Montparnasse infernale.
La tour de contrôle infernale.
La tour de contrôle, donc le numéro 2, où comment en fait le corps de Ramzi participait d'un humour, après dans une tradition totalement burlesque, mais comment en fait Ramzi. Le corps de Ramzi était son outil de jeu. C'était pas sa capacité à bien réciter des dialogues ou la profondeur de son regard, mais c'était vraiment son corps à 100%, j'ai envie de dire. Et en fait, comment en fait ici dans Terminal Sud, son corps en fait est encore un outil de jeu pour Ramzi.
Surtout
c'est ça qui est hyper intéressant.
Il s'est épaissi en plus.
Depuis une dizaine d'années, il est quand même vraiment mastoc maintenant, Ramzi, une grosse beubarde, tout ça. Et c'est vrai que ça lui donne quand même une présence de jeu et je trouve un caractère à la fois massif et intime qui est beaucoup plus impressionnant que quand il était tout grand, pitoukeux.
Mais je pense qu'il y a, il y a des textes à écrire sur le corps de Ramzi Bedia et comment il l'utilise. Mais vraiment, hein,
Il est l'acteur.
Mais oui, mais c'est peut-être un des seuls, des rares acteurs, du moins contemporains français, qui utilise vraiment son corps à 2000%. Vraiment, voilà.
C'est... Ouais, après, malheureusement, dans la plupart des films qu'il a fait Ramzi, parce que lui, il est vraiment plongé dans une certaine manière. franche du cinéma d'auteur, en général, il est rarement utilisé à sa juste mesure. Quand il fait des comédies, il est encore très bien parce qu'il, parce qu'il connaît son truc, il fait n'importe quoi. En général, même quand il apparaît dans les comédies, c'est lui le meilleur élément du film. Dans Taxi 5, par exemple, il y a une scène, il vole le show à lui tout seul. Quoi. Mais c'est vrai que quand il joue, notamment dans les films de Zaymush, où on voit vraiment qu'il est impliqué, on voit vraiment que ça l'intéresse à la fois la manière dont Rabat bosse et le discours qu'il tenterait d'avoir. Là, on sent qu'il est vraiment hyper investi et tu sens que c'est un truc qui l'intéresse vraiment, même en termes personnels. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'était Terminal Sud de Rabat Habersheimer, qui donc est sorti en DVD et vidéo il y a quelques mois. Donc avant le confinement, cette époque désormais si lointaine et si étrange du monde d'avant, mais que nous recommandons bien évidemment chaudement, comme à peu près tout le cinéma de Rabat Habersheimer, un cinéaste très précieux que l'on a en France et qui malheureusement tourne beaucoup trop peu. On va faire une nouvelle petite pause musicale et on va une fois de plus partir dans le sud, mais cette fois dans le sud des États-Unis.
I'm going to bring out another friend of ours now to this tune with Mac, Bobby Charles. Great, great, great songwriter. Bobby Charles. He wrote See You Later, Alligator.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était The Band avec Bobby Charles, Down South New Orleans. Donc extrait du dernier concert de The Band dans lequel on retrouvait notamment notre ami Bob Dylan hein, qu'on a un petit peu passé pendant ces mixtapes du confinement parce que ça fait toujours plaisir hein, d'ailleurs.
Qui a ressorti quelques morceaux.
Voilà, qui a aussi ressorti trois morceaux merveilleux et qui sort un double album le 19 juin prochain. Et si c'est du même tonneau que ce qu'il a balancé pour le moment, ça promet d'être absolument merveilleux. Il revient quand même en grosse, grosse forme là. Donc, moi, j'ai personnellement très, très hâte d'écouter ça. Je pense que ça va être une des plus belles choses de l'année. D'ores et déjà, ça l'est. Mark my word, comme on dit. Mais bref, donc de Down South in New Orleans, il va en être question avec, à l'occasion de la ressortie en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista. dans leur collection Charles Bronson. On avait déjà parlé notamment des Baroudeurs il y a quelques mois. Ils ressortent aussi Mister Majestic et autres genre de joyeuseté. Donc c'est Le Bagarreur, a.k.a. Hard Times, premier long métrage de Walter Hill sorti en 1975, un film qui déjà que moi j'avais vu il y a longtemps mais que là j'ai eu un grand plaisir à revoir, qui de toute façon avait tout pour me plaire puisqu'il y a dans les deux rôles principaux James Coburn et Charles Bronson. Ça se déroule à l'époque de la Grande Dépression dans le sud des États-Unis et notamment à la Nouvelle-Orléans, et que ça parle de boxe. Donc a priori, quand même vendu comme ça, c'est normalement fait pour être un des films les plus jouissifs du monde, un des plus agréables. Ce qu'il est, c'est un film que j'ai pris moi personnellement beaucoup de plaisir à voir. Et donc de quoi que ça cause, eh bien c'est très simple. Charles Bronson joue un hobo qui aime bien faire de la boxe pour avoir de l'argent, donc il va de ville en ville et de train en train, il fait de la boxe, il ramasse de la thune, il tabasse des gens et après il repart pour une autre ville. Et dans une ville, il tombe sur un organisateur de combat incarné par James Coburn avec son beau costume, son chapeau et qui adore sourire de ses magnifiques belles dents blanches. Et donc Coburn s'est dit, bah tiens, ce mec il tape quand même vachement bien, je vais le prendre sous mon aile, on va partir à la Nouvelle-Orléans et on va aller combattre les champions de là-bas. Donc finalement, c'est assez simple, c'est plutôt ça l'histoire. Un film qui est très sec, donc il dure une heure et demie, et d'une sécheresse de style pour un premier long métrage que je trouve admirable. Son Walter Hill, c'est un des réals américains peut-être les plus sous-estimés des années 80. Il a fait quand même un paquet de choses assez merveilleuses, que ce soit dans le film de Puck Redneck avec Sans Retour, un film tourné dans le Bayou, que ce soit avec l'inventeur du buddy movie, presque avec 48 heures et 48 heures de plus, avec Nick Nolte et puis Eddie Murphy. Il a quand même créé Les Warriors, il a fait Driver, un cinéaste vraiment passionnant du cinéma américain. Qui, malheureusement,
du western aussi.
Du western aussi, avec Extrême Préjudice, par exemple.
Extrême Préjudice, ou avec celui avec Jeff Bridges, qui joue le rôle de comment il s'appelle, de ce mec qui est dans Deadwood, là.
Ah oui, Billy Cock.
Wild Billy Cock, ouais. Qui se passe à Deadwood, justement, qui est un film assez intéressant. Ouais. Et puis le gang des frères James,
ouais,
aussi.
Ouais, ouais.
Avec toute la famille Kitsch.
C'est ça. Un vrai cinéaste américain, quoi, qui fait des westerns de toute manière, peu importe les genres qu'il investit. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment très content de le revoir, à la fois, donc, par le casting qu'il montre, puisqu'il y a aussi Jill Ireland, qui est Madame Bronson à la vie, une sécheresse de style, un cadre qui est absolument merveilleux et qui filme avec un réel amour et une réelle passion pour ses personnages paumés, pour ces personnages de la Grande Dépression, et où il y a un style et surtout une absence totale de musique de fosse. Ce qui, quand même, en ces temps où on a de la musique symphonique à tire la rigo poète, où soit on met les hits du top 50, tout le temps, là, il y a une musique au début au générique, une musique à la fin, et sinon, que dalle. Et ce que je trouve absolument admirable, et c'est qui participe grandement au bonheur de visionnage qu'on a. À voir ça, mon cher Thibaut, vous qui aimez bien aussi la Grande Dépression.
J'aime bien la Grande Dépression et c'est vrai que j'abonde dans ton sens en disant que Walter Hill est un cinéaste totalement sous-estimé, parce que même quand il fait des bouses, il les fait bien, donc ça fait plaisir. Et on se souvient qu'il a fait aussi tourner notre Sylvester Stallone d'amour.
Une balle dans la tête.
Voilà, donc c'est son dernier film, si je ne m'abuse.
Ouais, avant-dernier. Il a sorti un août après, qui n'est pas sorti en France.
Ah, voilà, en tant que réalisateur. Et ce qui est admirable avec ce Bagarreur, c'est que on sent déjà le style Walter Hill se mettre en place, style qui va par la suite multiplier par 5 milliards avec Driver, donc un film également d'une sécheresse et presque d'une vacuité sur la condition humaine qui est non pas perturbant, mais non pas intéressant, mais voilà, où il pousse les potards en fait, de la vacuité humaine à donf.
Ça le rapproche quand même, je trouve, pas mal d'un cinéaste comme Robert Aldrich, qui est un peu son prédécesseur dans le style d'Hollywood, un vrai maverick, qui a des vrais persos qui sont souvent des marginaux, souvent en proie à la violence, que ce soit la société ou bien de leurs contemporains. Et il y a vraiment une continuité, je trouve, d'esprit et presque de style entre d'un cinéaste comme Aldrich et un cinéaste comme Walter Hill. Dans les films qu'il fera par la suite, Walter Hill, même jusque sur la fin, un film comme Undisputed, son film de prison avec Ving Rhames et Wesley Snipes, Un seul deviendra
Invincible.
Invincible, hein. Pareil, qui est un pur film de prison, hyper sec, hyper violent, où il revenait un peu un genre de cinéma et de combat comme il fait justement dans Le Bagarreur. Il y a quand même une cohérence au cours de sa filmographie, malgré quelques faux pas comme cette merde de Supernova en 2000, produit par Francis Ford Coppola, film de SF avec James Spader qui se bat donc contre une supernova. Film qui a connu des problèmes de production assez intenses et assez importants, d'un film genre de SF épique de 2h30, c'est passé une merde d'1h40 de fluo dégueulasse, quoi. Mais ils ont tous eu leur raté, de toute façon,
oui.
À un moment donné de leur carrière où ils sont un peu perdus.
Mais ce qui est intéressant, en fait, du moins dans ce Bagarreur, et c'est un film vraiment qu'on peut lier avec Driver, mais dans ce Bagarreur, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, il y a une vraie sécheresse de style, une absence de musique, une absence quasi de dialogue, hein, faut bien être honnête.
Bronson doit avoir 10 phrases dans tout le film.
Et pourtant, il y a plein de choses à dire. Sur ce film, il y a plein de choses à dire sur le choix du casting, il y a plein de choses à dire sur cette arrivée de train, en fait, ce personnage du passé, donc joué par le Charles Bronson, donc Charles Bronson,
qui avait quand même 50 balais dans le film, hein.
Qui est gaulé comme pas possible, et voilà, et qui a joué aussi dans du western, et en fait, ce film-là rejoue en fait la mythologie du combat de western, et le choix de Bronson est hyper intéressant parce que Bronson a joué dans du western. Ça aurait pu être un Clint Eastwood de 55 ans, ça aurait été exactement la même chose, ou un John Wayne de 55 ans, ou un Gary Cooper de, peut-être pas Gary Cooper, non, Clint Eastwood, Cooper, ou John Wayne de 55 ans, ça aurait été la même chose. Et c'est arrivé en train hyper intéressante parce que ça m'a fait penser à un autre film qui date à peu près de la même période, c'est Willy Boy de Abraham Polonsky, où en fait c'est le passé américain qui revient. Alors, même si le film se déroule durant la Grande Dépression, ça reste quand même un film des années 70. Et c'est le passé américain qui revient dans les années 70 et qui va nous parler de l'Amérique des années 70. Et ici, en fait, c'est ce personnage, c'est la mythologie Charles Bronsonienne, on va dire, qui revient dans les années 70, c'est-à-dire un acteur de western qui a fait des combats de western et qui revient pour tataner la gueule pour une seule raison, en fait, c'est la thune. Et c'est en ça que c'est un grand film des années 70, parce qu'en fait, il n'y a plus aucune mythologie qui se passe dans Le Bagarreur. On est là que pour faire de la thune. Et ça, c'est... ça montre, en gros, la perte des idéaux américains. Je ne vais pas faire mon Jean-Baptiste Thoré, mais bon, on en a... le film participe un petit peu de ce grand courant, c'est pas trop un courant, mais de ce grand contexte du cinéma américain des années 70. Et en fait, la figure du train qui revient de la profondeur de champ et qui se ramène en premier plan, avec un putain de cinémascope de malade mental. Et voilà, et c'est comme chez Abraham Polonsky dans Willy Boy, c'est le passé américain qui revient pour nous tataner la gueule des années 70 et pour nous parler de ce que c'est l'Amérique des années 70. Et cette figure du train, elle est absolument magistrale. Et voilà, en 10 plans, tout est dit. Et après, Bronson va aller s'immiscer dans ces combats de boxe. Et où est-ce qu'on va aller? On va aller dans des lieux ouvriers. Et qu'est-ce que c'est la condition ouvrière dans les années 70? C'est la merde. Donc, dans la Grande Dépression, mais relu au contexte de l'Amérique des années 70, qu'est-ce que c'est? C'est la merde. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et ben, pour se faire de la thune, on peut faire qu'une seule chose. Et ben, c'est se tataner la gueule. Parce qu'en fait, il n'y a plus aucune perspective. Et en fait, voilà, Walter Hill ne le dit pas expressément par une ligne de dialogue, il dit tout par une putain de gestion des décors qui est absolument impressionnante. Ouais, il y a ce combat près du port là aussi qui est merveilleuse.
Il y a
qui rappelle un peu Gentleman Jim là, toute cette scène sur la barge là.
Dans Walsh,
magnifique.
Qui est un super film sur la boxe aussi. Et sur
le meilleur film de boxe.
Ouais. Moi, ce qui m'a, alors moi c'est moi je, alors, moi j'ai pas ressenti le film peut-être de manière aussi pessimiste, dans la mesure où pour moi justement il y a cette idée quand même. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée du passé qui fait retour, de ce que véhicule avec lui Bronson et puis même Coburn hein, d'une certaine oui, manière, oui. Et puis le fait que les personnages n'ont quasiment que des relations d'ordre pécunier. C'est-à-dire que même Bronson avec sa petite amie, au bout d'un moment, elle l'a pour un type qui est mieux doté. Enfin, et en fait, effectivement, il n'y a plus aucun idéal, puisqu'en fait, les personnages ne peuvent plus avoir que des relations capitalistiques les uns avec les autres. D'exploitation, de soumission, de négociation, de contrat. Façon,
aux USA, il n'y a qu'une seule couleur, c'est le vert, c'est la couleur du dollar.
Exactement. Mais néanmoins, et c'est le sens, à mon avis, de la scène finale du film, néanmoins... malgré tout, il y a une espèce de croyance, quelque chose qu'on retrouve aussi dans le western, qui est là, cette croyance très profonde et très américaine que même l'argent, même le capital ne peut pas empêcher la légende. Et c'est-à-dire que les mecs restent bigger than life quand même. Et c'est-à-dire que même si Bronson fait ça pour l'argent, à la fin, quand il part, il a gagné l'admiration de James Coburn parce que James, voilà, il lui a montré ce que c'est que la liberté. justement la liberté par rapport à l'argent. La liberté de dire ok, je fais mon blé, puis une fois que j'ai terminé, je m'en vais. Et puis il n'y aura pas de négociation. Là, il n'y aura plus de négociation, j'irai, puis j'irai faire autre chose ailleurs. Et quand voilà, on lui dit qu'est-ce que tu vas faire, tu pars où ? Dans le Nord. Voilà. Et on n'a aucune idée de ce que va devenir sa vie par la suite, mais par contre, on sait qu'il a la par rapport à tous les autres personnages du film, il a cette liberté de dire merde quand ça la chante, quand ça lui chante. Et je trouve que là, je trouve qu'il y a finalement une certaine forme d'optimisme dans l'idée que l'histoire fait retour, mais la légende fait retour en même temps que l'histoire. Et que finalement, à la fin, même si on constate la disparition totale des idéaux qui ont de liberté ou de choses comme ça, qui ont fondé l'Amérique, la dimension légendaire persiste. Moi, j'ai trouvé ça assez.
Pour Branson, parce que tout le reste, tous ces personnages en fait qui vont petit à petit devenir hors champ et qui vont être vraiment expulsés de l'histoire, eux, ils vont rester dans ce moment-là.
Et qui sont pas des salauds.
Il y a pas de.
Et même s'il y a que l'histoire de pognon, il y a pas des vilains méchants puis des pauvres victimes.
C'est pas manichéen, c'est un film globalement gris. Mais tous ces gens ou tous ces personnages qui vont petit à petit en fait passer en hors champ, en fait, eux, qu'est-ce qui reste, eux, dans ce présent-là ? Finalement, il reste pas grand-chose. Et voilà, et ils se baladent dans une. Walter Hill, comme tu le disais, Thomas, adore filmer le Sud. Il le fera magnifiquement dans son retour, qui, à mon sens, pour moi, son plus grand film.
Southern Comfort.
Mais voilà, En même temps, il gère son cinémascope de manière admirable. De toute façon, rien que pour l'arrivée du train, le cinémascope est fondamentalement, voire théoriquement, valable. Et ensuite, la gestion de cette Nouvelle-Orléans, ces chambres totalement miteuses, dégueulasses. Oui, ça va, bon. Branson arrive dans la chambre, oui, ça va, mais en fait, c'est dégueulasse, ça pue, c'est miteux. Et voilà, tu sens la décrépitude de partout. Les usines sont dégueulasses. Il y a pas de fatalisme, mais il y a un constat. Peut-être une approche limite, alors quasi documentaire. Voilà, ça serait
naturaliste.
Un gros mot. Voilà, naturaliste. Exactement. Ou au détour d'une séquence avec ces pêcheurs d'huîtres.
Ouais, par exemple, la scène où ils vident les huîtres.
Voilà, qui sont hyper intéressantes. Bien, ouais. Mais voilà, on va aller dans différents lieux en fait de la classe ouvrière pour montrer comment ça marche. Et en fait, ça marche, ça survit en fait. Voilà. Ça ne vit pas, ça survit.
C'est comme le truc de beaucoup de cinéastes ricains, c'est de filmer des mecs au travail, des mecs qui bossent, pas forcément des prolos d'ailleurs, mais.
Mais de les filmer toujours comme un monde
professionnel.
De les filmer toujours comme un monde parallèle. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi. C'est que même s'il y a les bourgeois, tout ça, mais finalement. C'est des anciens pauvres qui sont devenus riches en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vraie bourgeoisie du Sud en fait, on la voit pas vraiment la bourgeoisie, la vraie aristocratie, l'aristocratie coloniale et tout ça, je veux dire l'aristocratie esclavagiste et tout, on la voit pas tant que ça. Et surtout le truc c'est que moi le film m'a vachement fait penser à The Warriors quoi, je veux dire aux guerriers de la nuit, c'est-à-dire l'idée que la ville est un espace qui le jour appartient aux gens bien et qui quand la nuit tombe devient un monde parallèle. Devient un monde parallèle et se transforme visuellement pour s'accorder à cette idée de monde parallèle où seuls les prolétaires vivent. Parce que dans The Warriors, c'est ça qu'on voit aussi. Ce qu'on voit dans The Warriors, on voit que des pauvres. On est dans un New York où il n'y a que des pauvres. Parce que c'est la nuit et que c'est le moment où ils sortent. Quoi. Voilà, c'est le moment où on
les cache.
Voilà, où ça devient leur espace. Et je trouve que là, il y a un rapport à cette espèce de ville double comme ça qu'on voit, qui quand on la voit de jour est toujours perpétuellement vide. Enfin, je sais pas. Les cadres sont très vides dans ce film-là et cette espèce d'idée puis on sent que tu vois. Et moi, j'adore ça, cette manière par la mise en scène de nous faire sentir que c'est la Grande Dépression. Il n'y a pas de discours sur la Grande Dépression. On ne sait pas en quelle année ça se passe. Par contre, tu vois cette espèce d'immense usine complètement vide. Et tu dis, il n'y a plus de boulot. Parce que ces espèces de temples, qui sont des espèces de basiliques, qui sont avec des machines immenses, avec des machins, avec des tuyaux et des trucs. Et en fait, de les présenter de nuit avec juste des combats clandestins, ça nous dit tout sur à quoi elles ressemblent aussi de jour, en fait, sans avoir à nous les montrer de jour.
Les rues sont vides, la ville est confinée.
C'est quoi un lieu de production, en fait? Qu'est-ce que est devenu le lieu de production, en fait? C'est devenu un lieu donc, du coup, où on fait des combats clandestins. Et en fait, la fatalité, moi, je la retrouvais dans les. Pour les scènes de baston, notamment dans cette scène de la cage où en fait il y a des vues initiales. Alors Walter Hill ne s'embarrasse pas des masses pour les scènes de baston. Il reste du coup très sec et en même temps suffisamment élégant pour qu'on suive les combats.
Elles sont bien découpées.
Avec beaucoup de plaisir parce que pas une caméra à l'épaule omniprésente. Il sait alterner plan serré, plan large. Et dans ce combat, dans la cage, on va l'appeler comme ça, il y a des vues initiales. Il y en a 3 ou 4.
Ouais, parce que c'est le point de vue de la foule.
Mais en même temps, c'est aussi le point de vue d'un d'une destinée ou du moins ou d'une oppression de vie qui est perpétuellement présente. Et ce combat-là aurait pu être finalement aurait pu être le combat final. Alors, ça n'est pas le combat final, on ne va pas non plus spoiler tout le film, mais ce point de vue-là, en fait, m'a fait tiquer, m'a dit... Mais déjà, il permet de proposer une image graphique, parce qu'en plus, il y a des grillages, il y a la foule et tout, donc c'est, graphiquement, c'est hyper beau. Et en même temps, il y avait ce sentiment de fatalité qui arrivait. Et même si, je suis d'accord avec toi sur la légende, on ne tue pas non plus une légende, mais il y a quand même ce poids, en fait, de l'histoire qui s'abat sur ce personnage, ou sur ces personnages, et même sur les spectateurs, d'ailleurs.
Qui sont obligés de vendre leur corps pour vivre. Parce que c'est ça, en fait, ce que fait Bronson. Bronson, c'est une prostituée.
Il marchande sa force de travail.
Et comme les mecs en face de lui, qui ne sont pas présentés d'ailleurs que comme des brutes complètement abrutis. Hein,
je dire, plutôt sympathiques.
Le gros chauve contre lequel il se bat, oui. Et qui lui dit à un moment, tu te bats bien. Quoi, je dire, y a quand même... Et tu sens qu'il y a quand même, et même entre patrons, entre James Coburn et puis sa némésis, voilà, il y a toute une scène avec des mafieux et tout ça. Moi, je m'attendais à ce que ça vire, à ce que ça se passe assez mal, cette scène-là. Et au final, et en fait, voilà, c'est ça le truc.
Il n'y a pas d'humiliation.
Ouais, et il y a cette idée que dans le prolétariat, il y a une forme de chevalerie. Que finalement, ils arrivent. Et encore, ça rejoint ce truc de légende, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme ne peut pas s'empêcher d'essayer d'être. Je sais pas moi, d'avoir une espèce de prestance.
Ouais, de noblesse.
Du respect. Prestance. Et James Coburn le fait magiquement bien dans le genre escroc, mais hyper sympathique.
Il est très content.
Il cabotine légèrement. C'est
ouais, il cabotine comme il faut. Mais justement, par rapport à Bronson qui est mutique, c'est toujours très bien parce qu'il occupe un espace que Bronson occupe d'une autre manière. Et il y a des scènes très bien avec Bronson, les scènes avec sa petite amie et tout ça.
Avec son chat.
Voilà, où on n'est pas du tout dans les paires de claques hyper macho des baroudeurs, quoi. Et là, c'est là que tu vois la différence. En termes de scénar, puis en termes de metteur en scène. Tu vois comment est-ce qu'il y a un mec qui.
Entre la virilité débile qu'on voit un peu dans les baroudeurs, puis là, une autre genre de virilité qui est plus prolétarienne.
Voilà, et puis qui est beaucoup plus, encore une fois, chevaleresque. La manière dont il séduit cette femme.
C'est très innocent.
À la fois, il s'impose et en même temps, il lui laisse du temps. Enfin, voilà, il y a une espèce de d'amour courtois finalement dans ces scènes-là. D'ailleurs, et le film est très pudique d'ailleurs. Hein, pas de scène de sexe, pas de scène de nu. Et voilà, il y a des choses. Même là, les relations de James Coburn avec son épouse qui sont un peu plus cavalières, on va dire, mais qui sont, c'est pas. On sent qu'il y a
un goujat.
Voilà, c'est des gens.
C'est du respect en fait. Les gens se respectent.
C'est des gens qui pour qui la boxe. C'est pour l'argent, mais c'est aussi pour expulser toute cette violence sociale qui c'est le moyen qu'ils ont trouvé de l'expulser et de la ritualiser pour pas qu'elle devienne qu'elle déborde et qu'elle devienne qu'elle finisse par toucher justement les gens de sa propre classe sociale. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant de voir comment est-ce que la boxe n'est pas du tout traitée comme une espèce de truc de bourrin, en fait. Il y a toujours ce côté un peu, effectivement, boxe à l'ancienne. Et tu sens que ça se passe dans les années 30 de ce point de vue-là, quoi. Ce côté gentleman gym, quoi. Des mecs du peuple qui se foutent sur la gueule.
Le sport noble, quoi.
Pour l'argent, mais aussi pour le spectacle et aussi pour la. Voilà, pour la prestance, et que les trois vont ensemble, ce qui fait que pour moi, effectivement, le film est pas il est fataliste sur le plan social, je trouve moins sur ce que sont les prolétaires, en fait, et sur la culture prolétaire notamment.
Belle conclusion, on va s'arrêter là du coup. Donc c'était Le Bagarreur, Hard Times de Walter Hill, film de 75, ressorti par Sidonis Calista, que vous l'aurez compris, nous vous recommandons chaudement, comme d'ailleurs, la majorité de la filmographie de Walter Hill, cinéaste, je trouve, beaucoup trop mésestimé le cinéma américain.
Comme d'autres,
beaucoup de ses petits camarades.
Comme
de
beaucoup d'autres faiseurs, justement. Enfin, de ce qu'on a considéré pendant longtemps des faiseurs, moi ce que j'appelle les petits maîtres. Ouais. Voilà, comme il y a des petits maîtres dans la peinture hollandaise, où voilà, on se dit, bon, une fois qu'on a vu les Vermeer, on va voir des petits mecs dont on n'a jamais entendu parler, puis tout d'un coup on se dit, oh, c'est vachement bien quand même. C'est quand même pas mal, les gars, ça fait, il y a du métier. Quoi. C'est exactement ça.
On va passer au coup de cœur, mon cher Thibaut.
Alors les coups de cœur, ça aurait pu être plusieurs films, notamment je pensais à la... Alors je vais faire mon mon grand cinéphile, La Ligne Générale, que je n'avais jamais vu d'Eisenstein, en fait. Qui
comment je la raconte ?
Quel cinéphile !
Qui est absolument incroyable.
Le père de famille qui regarde Eisenstein.
Voilà, né Bobo. Et non, en fait, ça va être L'Intruse, a.k.a. City Girl, a.k.a. un film dont la production a été chaotique et que Murnau regrette un petit peu. Donc, L'Intruse de ce putain de génie de Murnau.
Friedrich Murnau.
Voilà.
Un film qui nous montre qu'être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile.
Et surtout, qui nous montre que l'amour, ça peut être magnifique quand c'est filmé dans peut-être le plus beau travelling du monde, Terrence Malick. Je suis fan de Terrence Malick. Accroche-toi, ou enfin, du moins, je vois d'où ton inspiration te vient. Donc voilà, film qu'on peut aussi rattacher peut-être au Raisin de la colère de John Ford. Donc, superbe évocation d'un amour entre une serveuse voilà, de
la campagne, qui est une de la campagne
de Chicago, me semble-t-il.
Une plouque.
Et d'un paysan qui vient vendre son blé à la bourse de Chicago, mais patatras, la bourse, elle s'effondre, du coup, il n'y a pas de thune, mais l'amour, heureusement, triomphe de tout. Et rien que pour ce travelling, j'ai dû se mater ce travelling, mais je pense 50 fois d'affilée, tellement il est magnifique.
Mais c'est pour ça qu'après, tu n'as pas le temps de voir les films en entier, si tu en mets les scènes.
Donc voilà, L'Intruse de Murnau, que je n'avais jamais vu, et Murnau est un grand cinéaste des émotions humaines, et c'est pas tout mal.
Docteur.
Bon, alors moi, je vais peut-être pas m'aligner sur Murnau direct, mais finalement, c'est pas mal non plus, puisque ça sera là aussi un film que moi, je n'avais jamais vu, mais qui est un classique, et L'Homme de l'Ouest d'Anthony Mann, un des derniers films avec Gary Cooper.
Qui a fait quand même une chier de bon western.
Voilà, qui était déjà bien malade, qui était déjà bien atteint de son cancer à l'époque, mais qui livre une prestation, alors qu'apparemment, il a souffert sur le film de manière incroyable.
Ça se voit qu'il...
Mais qui est un film avec une scène de baston à main nue, pareil avec un découpage complètement incroyable, voilà. Et c'est un film avec des paysages géniaux, une espèce de finale presque western italien. Enfin non, un film d'Anthony Mann, film d'entre deux entre le classicisme et la modernité, donc super passionnant à regarder.
Alors non, un peu dans le même genre d'ailleurs, parce que j'ai revu pas mal de Peckinpah pendant le confinement, donc ce sera Apportez-moi la tête de Alfredo Garcia, qui n'est pas mon préféré, mais qui est quand même peut-être son plus beau film, je trouve, où il y a notamment toute la philosophie de Peckinpah qui a résumé en une phrase « Nobody loses all the time ». Voilà, on ne perd pas à chaque fois, c'est magnifique. Et dans un tout autre style, pour le coup, c'est la saison 3 de Baron Noir. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que là, les mecs, ils ont décidé de mettre tous les potards à 11 à tous les niveaux, en réel, en musique, en jeu, en scénario. C'est abracadabrantesque, mais c'est très bien fabriqué. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir tous ces mecs débiter des choses. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Tu vois clairement que Kamerad parlait de Jaurès, Blum ou de la gauche. Visuellement, une notion qui lui échappe totalement, mais il le sort avec un bonheur. On a l'impression qu'il est défoncé tout le temps. C'est beaucoup de plaisir à voir. En tout cas, c'est très bien fabriqué. Ça fait vraiment très plaisir de voir ça dans une prod française. Gal.
Alors moi, ça va être un premier film d'un petit protégé d'Alexandre Sokourov. C'est Alexandre Zolotoukhin et c'est une jeunesse russe. Un film totalement sensoriel, on va dire, qui fonctionne sur un principe simple. En gros, on suit en montage alterné un jeune pendant la Première Guerre mondiale en Russie, et en même temps, on suit des répétitions d'un orchestre de jeunes du même âge que lui à peu près. Et donc, le jeune qui fait la guerre va peu à peu perdre tous ses sens pendant le film. Donc, avec deux régimes d'images, quand même, j'aime bien dire, Erwan.
Dans le dispositif.
Donc, de la vieille caméra pellicule pour la guerre et de la bonne HD pour le temps de maintenant.
Une proposition.
Une proposition de cinéma, comme on dit.
Une proposition curieuse.
Oui, exactement.
Et atypique.
Mais pas dénuée d'intérêt. Mmh.
Merci mon cher, merci à vous messieurs, merci Gal encore de nous avoir accueillis dans votre cuisine, oui, et pour merci. Le café et la citronnelle que vous nous avez offert, c'était beaucoup de bonheur et de cigarettes. On se retrouve donc la semaine prochaine, soit en studio, soit en reconfinement, ça dépendra, on va dire, de la situation sanitaire dans le pays, mais bon, comme a dit notre Premier ministre, tout va bien finalement, donc voilà, la vie pourra prendre son cours, et surtout n'oubliez pas d'aller dépenser, et nous reparlerons de quelques sorties, notamment de films asiatiques que nous avons eu par Spectrum Film. Merci messieurs, merci Gal. Prochaine émission, prochaine édition. Et ciao, bonsoir.
Salut. Salut.